Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Bertie Bourdon, Barthélémy Gaillard, Mélanie Chalandon, Gwendoline Troiano et Nora Litoussi, réalisé par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Jean-Guilain Meige. En cette semaine du 1er mai et en ce jour du 1er mai, une géopolitique des travailleurs, de ces travailleurs que l'on importe, que l'on exporte, voire que l'on exploite. Nous parlions hier des sous-traitants de l'intelligence artificielle à Madagascar et au Kenya. Nous évoquerons demain les commerçants chinois au Sénégal. Aujourd'hui, les Philippines ou la fabrique des domestiques modèles.
Bonjour madame, bonjour monsieur, je m'appelle Laïssa Ungdung, j'ai 30 ans et je viens des Philippines. J'ai déjà travaillé plusieurs années en Arabie Saoudite comme nourrice et employée de maison, je prenais soin des enfants. Merci.
Ça ne dérange pas les femmes philippines de travailler en tant que domestiques, même si elles ont des diplômes. Nous sommes humbles, nous pouvons faire le boulot du moment qu'il est correct. Et tout ça, on le fait pour notre famille.
Nous n'avons qu'un seul souhait, qu'un jour, la décision de partir travailler à l'étranger soit prise par choix et non par nécessité. C'est toujours une noble cause à laquelle répondent les travailleurs philippins à l'étranger. Ils acceptent de profonds sacrifices pour eux et leur famille et leur communauté. Nous nous engageons, avec nos partenaires de la communauté internationale, à assurer un environnement de travail sûr pour nos compatriotes.
Un environnement de travail sûr, en particulier pour les femmes philippines qui partent vivre à l'étranger comme employées de maison, promettait l'été dernier le président philippin Ferdinand Marcos Jr. Les gouvernements successifs aux Philippines sont pris depuis longtemps dans une contradiction que l'on peut résumer en une image. À l'aéroport de Manille, tous les jours, ce sont des centaines de femmes qui partent pour l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient ou l'Europe, érigées en héroïnes par les autorités puisqu'elles partent pour nourrir leur famille et donc en quelque sorte leur pays, mais tous les jours, des cercueils font le chemin inverse, les corps de femmes, souvent jeunes, mortes pour beaucoup de mauvais traitements. Ces femmes encore vivantes et ces femmes déjà mortes se sont pendant longtemps croisées sur le tarmac, jusqu'à ce que l'État entreprenne des travaux pour éviter ce balai morbide et pour le moins décourageant. Si l'État philippin essaie aujourd'hui de protéger ses ressortissantes parties travailler comme domestiques à l'étranger, c'est néanmoins lui qui a mis en place ce qui est devenue une véritable industrie. Spécialisation des travailleuses, agences de recrutement, centralisation des fonds renvoyés au pays. Toutes les étapes sont étroitement contrôlées par l'État. Un choix très fort hérité de la colonisation américaine essentiellement, puis institutionnalisé par Ferdinand Marcos en 1974 et qui porte ses fruits. Les transferts de fonds de la diaspora représentent aujourd'hui près de 13% du PIB des Philippines. Comment l'État philippin a-t-il construit cette politique publique de l'immigration de travail ? Et pourquoi les femmes philippines se sont-elles spécialisées dans le travail domestique ? Nous en parlons aujourd'hui avec notre invité Julien de Bonneville. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à vous. Merci d'être avec nous en direct depuis les studios de la Radio-Télévision Suisse. Vous êtes sociologue, chercheur à l'Observatoire des précarités de la Haute École de Travail Social et de Santé de Lausanne, auteur de l'industrie mondialisée du travail domestique aux Philippines, qui est apparu l'année dernière aux éditions de l'ENS, mais vous avez mené votre enquête de terrain en 2015. Vous avez rencontré de nombreuses femmes dans toutes les Philippines qui se destinent à devenir employées de maison. Vous avez rencontré des directeurs et directrices d'agences agence de recrutement, passé du temps dans le bâtiment du ministère du bien-être des travailleurs philippins à l'étranger qui se trouve à Manille, dans le plein centre quartier historique de la vieille ville. Vous avez également suivi des formations dans ce centre de formation qui s'appelle Good Luck. C'est engageant. Vous allez nous raconter tout ça. D'abord, de tous les Philippins et Philippines qui quittent leur pays chaque année, quelle part représente celles qui ont trouvé un emploi domestique dans une famille à l'étranger ?
Alors, actuellement, on dénombre près de 2 millions de personnes qui migrent chaque année en temps pour l'Asie du Sud-Est, les pays du Golfe et dans une moindre mesure l'Europe. Et parmi ces 2 millions de personnes, près de 800 000 personnes sont des travailleuses domestiques.
Les plus nombreuses après les marins, parce qu'il y a toujours beaucoup de marins philippins. On en avait d'ailleurs parlé longuement dans notre série sur le trafic maritime commercial.
Tout à fait. On observe justement dans ces flux migratoires une forte division genrée du travail qui se réactualise dans ces pratiques de recrutement aussi et de formation. On y reviendra par la suite.
Oui, parce qu'avant de se retrouver à Hong Kong, à Taïwan, au Liban, aux États-Unis, dans une moindre mesure, comme vous le disiez, ou en Europe, ces femmes sont d'abord repérées où qu'elles vivent, aux Philippines. Par qui d'ailleurs ? Parce que vous parlez des agents de recrutement comme de véritables chasseurs de têtes. Ils se définissent d'ailleurs eux-mêmes ainsi. Comment, où vont-ils chercher ces femmes qui ensuite iront travailler comme employées de maison?
Alors il y a toute une série de pratiques qui sont déployées par ces agences de recrutement. Ces pratiques vont de la publicisation de jobs sur des plateformes de réseaux sociaux, mais également toute une pratique de recrutement dans les campagnes, pour aller dans les zones les plus précaires aussi et les plus pauvres de l'archipel, pour aller recruter ces femmes et les former, puis les déployer vers des pays de destination.
Il y a par exemple cette agence dont vous parlez, Ahmed Agency, qui envoie les travailleuses vers le Moyen-Orient, qui procède à ce que vous appelez du marketing en province, avec des stands sur les marchés des villages reculés pour informer les populations locales sur ce qu'ils appellent les bénéfices de la migration. Simplement, comment les profils, entre guillemets, c'est un mot très à la mode et surtout très utilisé par ces agences de recrutement, comment sont-ils choisis ? Parce qu'une fois que des agents ont pris contact avec des femmes, ils les envoient vers des agences de recrutement, il y en a 3500 en tout aux Philippines. Est-ce que elles, ces agences, accueillent toutes les femmes qui se présentent à elles pour trouver du travail, ou est-ce qu'elles sont déjà en contact avec des familles à l'étranger qui recherchent certains profils en particulier ?
Tout à fait, il y a tout un travail qui est très intéressant que j'ai tenté de documenter dans le livre. C'est ce travail de traduction des attentes des employeurs. Et donc il faut savoir que ces agences de recrutement, elles sont étroitement en lien avec des agences de placement dans le pays de destination et des employeurs et des employeuses dans le pays de destination. Et donc le travail de ces agences va être de traduire les attentes des employeurs en termes de compétences et ensuite d'identifier ces compétences à travers des pratiques de recrutement. Et typiquement, concrètement, si certains employeurs décident d'avoir une employée particulièrement dévouée au travail, c'est un discours qu'on entend souvent, et notamment plus largement par rapport aux Philippines, ces femmes sont dévouées au travail, elles travaillent dur, du tôt le matin à tard le soir.
Elles sont gentilles et polies aussi, ce sont des mots qu'on croise dans les...
Tout à fait. Tout à fait. Tout un imaginaire que j'ai tenté de décrire dans le livre et qui renvoie justement à la colonisation, on y reviendra par la suite. Et donc ces attentes stéréotypées vont être traduites à travers des pratiques de recrutement. Concrètement, le dévouement au travail va être évalué à travers le fait de recruter des femmes des campagnes, avec l'idée que les femmes des campagnes sont plus dévouées au travail. Elles sont, tout le discours qu'il y avait, c'est qu'elles sont moins souvent sur leur téléphone comme les femmes dans les villes. Elles ont plus l'habitude de travailler dur, de travailler tôt le matin, tard le soir. Et à ce titre, certains agents de recrutement mettaient en place une pratique qu'ils nommaient le test des mains, c'est-à-dire de toucher la paume des mains des travailleuses, voir si elles étaient soft ou quoi, douce ou rugueuse.
Ça se fait de la corne pour voir
exactement.
Si elles travaillent.
Exactement, c'était un marqueur de travail, de labeur. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que toutes ces pratiques de recrutement aussi, elles vont réhabiliter certains imaginaires régionaux aux Philippines, avec certaines régions où les personnes sont perçues comme plus dévouées au travail que d'autres, plus souriantes que d'autres. Et du coup, selon les attentes des employeurs, il va y avoir ce travail de traduction. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces pratiques de recrutement très locales, très micro-locales, dans des régions reculées des Philippines, finalement, sont étroitement connectées à des attentes, des représentations, des imaginaires des employeurs dans le pays de destination.
Okay.
Et
Oui. Pardon. Allez-y, pardon, je vous en prie.
Ces agences de recrutement, du coup, ont un rôle important de traduction et cette traduction se joue à l'échelle transnationale.
Elles vont aussi chercher dans les régions du sud des Philippines des femmes musulmanes, c'est un critère important pour les pays du Golfe, ou dans certaines régions des femmes plus blanches que d'autres, et apparemment beaucoup d'employeurs demandent des Philippines à la peau plus blanche.
Je m'appelle Mia Faustino, j'ai 27 ans. J'ai un diplôme, j'ai suivi une formation professionnelle en informatique pendant un an. Je me suis inscrite ici, dans cette école d'employés de maison, parce que j'ai le projet d'aller à l'étranger, en Europe, en Amérique ou en Asie. Je travaille en ce moment dans des bureaux, mais les salaires sont très bas. Vous voyez, ma maison est vraiment vide. J'ai pas d'appareil ménager pour la cuisine, pas de meubles dans mon salon. Ma sœur est enseignante à l'école primaire. J'ai pas d'autre choix que de travailler à l'étranger. L'argent que je peux gagner aidera vraiment ma famille.
Alors, une jeune femme, Mia Faustino, inscrite dans une école, elle est allée voir ses agences de recrutement pour pouvoir partir à l'étranger pour aider sa famille, comme elle l'explique sur le média VG Movement, qui est un réseau de journalistes à l'international, journalistes pigistes. Selon l'agence qui les recrute, Julien de Bonneville, est-ce qu'elle se destine à certains pays en particulier? C'est-à-dire, est-ce qu'elles vont voir telle ou telle agence selon le pays du monde où elles aimeraient pouvoir travailler?
Ça peut arriver, mais en faisant des interviews avec ces femmes, ce qui ressort aussi, c'est que ces pratiques de recrutement sont sous-tendues par des enjeux économiques forts. Et selon les pays de destination, il y a ce qui est appelé par les agences des placement fees, des frais de placement, qui peuvent, selon les pays, n'existent pas, notamment les pays du Golfe, en tout cas au moment de l'enquête, et qui peuvent s'élever jusqu'à plusieurs milliers de dollars, notamment pour les femmes qui se destinent vers l'Europe. Donc il y a tout un rapport de classe sociale aussi qui se rejoue dans le choix des pays de destination. Pas seulement, il y a d'autres facteurs aussi qui vont rentrer en compte. Mais finalement, ces femmes, dans le choix entre guillemets, de ces pays de destination, la question économique va aussi rentrer en compte.
Alors je vous posais une question qui est un peu biaisée d'ailleurs, parce que je vous demandais si ces femmes choisissaient leurs agences de recrutement. En général, c'est plutôt l'inverse, ce sont des agences de recrutement qui choisissent des femmes selon les profils qui les intéressent elles. Alors vous en évoquez plusieurs dans votre travail. Global Manpower, c'est l'une des plus importantes, et elle a ouvert dans les années 2000 une antenne dédiée exclusivement à l'exportation de travailleuses domestiques vers l'Arabie Saoudite. Une autre qui envoie les travailleuses vers le Moyen-Orient, on en parlait tout à l'heure, Ahmed Agency. Dong-ho Agency aussi, qui cible des pays de destination en Asie du Sud-Est. D'autres qui ont davantage de liens avec Israël, International Placement, fondée par une personne qui a elle-même travaillé très longtemps en Israël, mais qui envoie aussi des femmes vers les pays du Moyen-Orient. Une fois que ces agences et ces femmes se sont mises d'accord pour commencer le parcours vers l'emploi à l'étranger, comment sont-elles formées?
Alors juste une petite parenthèse par rapport au nom des agences, c'est des noms, des faux noms que j'ai mis pour anonymiser les agences, bien sûr.
Pourquoi? Elles ne souhaitaient pas être rendues publiques?
Non, elles ne le souhaitaient pas, en effet.
Pourquoi? Parce que leur travail est quand même totalement officiel et même soutenu par l'État. Est-ce que vous sauriez expliquer pourquoi elles ne voulaient pas donner leur vrai nom?
Il y a tout un enjeu de concurrence aussi entre ces agences très fortes. Et il s'agissait aussi de préserver leurs bonnes pratiques, selon elles, de se démarquer des autres et ne pas divulguer ce qu'elles faisaient ou ce D'accord. qu'elles ne devaient pas faire aussi dans certains cas. Et donc c'est en ce sens-là que j'ai choisi d'anonymiser les personnes et les agences, et aussi pour des raisons déontologiques propres à la sociologie.
D'accord.
Mais
donc une fois que ces agences ont trouvé des femmes et n'ont pas presque contractuellement, se sont mises d'accord pour ce travail, elles les envoient à Manille, forcément la capitale des Philippines. C'est là que tout se passe en fait, la formation, tout est à Manille, ou même la préparation avant le séjour.
Tout à fait. La concentration des centres est principalement à Manille. Donc ces femmes sont recrutées, prennent une première fois l'avion, le bateau, le bus pour aller à la capitale, où elles vont rester plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et à suivre plusieurs formations. Il y a trois formations principales qu'elles doivent suivre, mais aussi elles doivent suivre des tests de santé pour s'assurer pour que l'agence puisse certifier qu'elles soient en bonne santé, qu'elles puissent bien travailler. Et donc parmi ces formations, il y a une formation autour des compétences du métier de travailleuse domestique. Et donc pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, Ces femmes vont apprendre tout un ensemble de savoir-faire, faire la cuisine, faire le repassage, faire les lits, nettoyer les vitres, faire à manger, apprendre à s'occuper des enfants ou des personnes âgées aussi. Mais à côté de ce savoir-faire, il y a aussi tout un savoir-être. Comment se comporter avec l'employeur. Ça passe par toute une série de jeux de rôle notamment, où à la suite, ces femmes vont performer tout un script, un scénario qui est préétabli, qu'elles doivent répéter, apprendre et performer pendant ces formations, où elles apprennent à être polies, comment on regarde son employeur, comment on s'adresse à lui ou à elle, ou comment est-ce qu'on le regarde dans les yeux, est-ce qu'on le regarde pas, est-ce qu'on lui sourit, est-ce qu'on lui sourit pas, à quel moment on sourit. Toutes ces micro-interactions sont scriptées et sont enseignées à ces femmes dans l'optique que les employeurs soient satisfaits. Et donc, il y a tout un travail de domestication des corps qui se met en place pendant ces formations, où un savoir-faire, un savoir-être est enseigné.
On leur dit bien, par exemple, n'oubliez pas de demander très poliment à la famille avec laquelle vous allez travailler ou pour laquelle vous allez travailler, quelles sont les couleurs qu'ils préfèrent, l'harmonie des couleurs pour le choix des draps dans le lit. Ça a l'air d'être très important, tout comme passer l'aspirateur comme si on dessinait la lettre M, comme maman. Savoir utiliser une cireuse, un fer à vapeur. Pour faire les vitres, alors souplesse du poignet et des bras exigés, manifestement. Et là, c'est presque un peu amusant parce que dans l'interaction vous décrivez entre une directrice d'agence et ces jeunes femmes, on sent que la directrice d'agence en profite pour faire nettoyer toute sa maison et toute sa voiture. C'est impeccable chez elle. Mais il y a plein de codes comme ça qu'il faut intégrer, et même quand on va nettoyer la salle de bain, par exemple.
Oui, tout à fait. La façon de... Est-ce qu'on ferme la porte ou pas? Comment il y a une forte tension à travers cet apprentissage, c'est satisfaire l'employeur, mais aussi s'assurer que les employés ne se baissent pas, fassent bien leur travail et se protègent aussi. Et donc dans cet apprentissage, il y a toujours cette tension dans cet apprentissage, comment apprendre toute une série de compétences clés pour faire le ménage et satisfaire l'employeur, mais ne pas se mettre en danger vis-à-vis de ce dernier, et notamment toutes les risques de maltraitance, de violence sexuelle, physique, qui peuvent intervenir dans la sphère de l'employeur. Donc il y a toujours cette tension, on y reviendra aussi par la suite, j'imagine, entre protéger les migrants, les migrantes, et s'assurer que les employeurs soient satisfaits.
C'est ce que dit, par exemple, cette directrice d'agence cette directrice d'agence rencontrée toujours par le Media Veggie Movement, qui dit que si ces personnes ne suivent pas les règles, qu'elles n'épluchent pas les carottes, par exemple, ou ne savent pas passer l'aspirateur, alors c'est normal, presque, qu'elles soient victimes de violences.
We promote our Filipino workers.
Nous encourageons les travailleurs philippins à avoir des qualifications, à avoir des diplômes pour travailler à l'étranger. Nous aimerions également que les autres pays soient au courant que nous disposons de travailleurs qualifiés et compétents, quelles que soient leurs qualifications.
Cette école leur donne la confiance nécessaire pour bien faire leur travail, parce que la plupart du temps, nous ne savons pas bien nous occuper de la maison, et les employeurs doivent les former pour qu'elles sachent nettoyer leur maison, etc. Les filles ici ne connaissent même pas le matériel utilisé par les familles. Alors, quand elles sont parties à l'étranger, les employeurs se mettent en colère, ils les giflent, ils les brûlent même avec des fers à repasser ou des plats chauds. On voit tellement de choses, des violences physiques, je veux dire.
C'est vrai que, Julien de Bonneville, ces formations qui sont dispensées à ces jeunes femmes philippines avant de partir travailler à l'étranger, elles sont dispensées avec une sorte de discours, que ce soit de ces agences ou de l'État, qui est de dire « vous saurez mieux prendre les bonnes décisions une fois formées pour ne pas subir de mauvais traitements ».
Exactement, c'est le script qui s'est mis en place au tournant des années 90-2000. Cette idée qu'il fallait mieux protéger les migrants et les migrantes, et notamment les migrantes les plus vulnérables, à savoir les travailleuses domestiques. Et le ressort discursif qu'il y a derrière, c'est plus ces femmes seront formées, mieux elles arriveront à répondre aux attentes des employeurs, moins et les employeurs du coup seront plus satisfaits de leur travail et vont moins les maltraiter. C'est le schéma de cette politique publique de mieux protéger les travailleuses domestiques, et donc ça passe par améliorer la formation, tant dans les savoir-faire, les savoir-être, mais aussi tout un apprentissage de la langue. Mais lorsqu'on va, j'ai un peu assisté à ces formations de linguistique, et dans ces formations, en fait, tout est mis en place pour apprendre un lexique pour satisfaire l'employeur. Comment bien lui dire merci, comment s'assurer que ce dernier ou cette dernière soit satisfait. Et donc voilà, tout est orienté pour satisfaire les employeurs et s'assurer que ces derniers n'ont ne les maltraite pas. C'est un schéma qu'on peut bien sûr discuter, parce qu'on voit qu'il y a toujours des violences envers ces travailleuses. Mais voilà, depuis les années 2000, toutes ces formations ont été mises en place dans l'idée de lutter contre la vulnérabilité de ces travailleuses.
Puisque vous parlez de ressorts discursifs, Julien de Bonneville, il y a aussi tous ces stéréotypes que vous avez évoqués tout à l'heure, des femmes philippines prisées pour leur docilité, comme on peut le lire et l'entendre, leur humilité, leur capacité d'adaptation, leur sens de la famille. D'où viennent-ils ces stéréotypes? Est-ce que c'est l'État philippin lui-même qui les a fabriqués dans une sorte de stratégie marketing de ses propres compatriotes? Est-ce que ce sont les agences? Est-ce que ces qualités-là sont certifiées, entre guillemets, par les agences? Enfin, d'où ça vient, tous ces mots-là?
Il y a plusieurs facteurs qui permettent de comprendre ces discours autour de, et ces imaginaires autour de ces femmes. Il y a toute une généalogie de discours autour de, qui émerge depuis la colonisation états-unienne, au tournant du XXe siècle, qui est une période forte dans laquelle les femmes vont être représentées comme des femmes dociles, soumises, souriantes. Et cet imaginaire de la femme philippine, en guillemets, va perdurer au-delà de la colonisation. Mais ces stéréotypes racialisants et genrés continuent d'opérer et d'être réactivés à travers toute une série d'acteurs et d'actrices et d'institutions, notamment les agences de recrutement, les centres de formation. Car comme je le disais avant, derrière ces stéréotypes, il y a tout un ensemble de compétences qui est valorisé par les agences.
Et notamment une idée pour les femmes, vraiment, parce que et les hommes et les femmes philippins émigrent, mais il y a cette idée que vous développez dans votre livre, qui est que les femmes migrantes font un meilleur usage des transferts de fonds, renvoient plus d'argent que les hommes, elles parlent bien anglais aussi, selon ce qu'on peut lire et entendre. Alors, tout ça, c'est en ça, sans doute, que cette conception culturaliste vient et doit être placé dans un phénomène, dans une histoire plus longue et plus large qui est celle de la colonisation, de l'industrie migratoire philippine devenue, alors également au-delà de la colonisation au cours du XXe siècle, une des industries de la migration les plus réputées au monde. En quoi c'est un héritage ou un produit de la période coloniale, d'après vous, puisque c'est ce que vous sembliez dire?
La période coloniale états-unienne, elle est un moment charnière pour comprendre cette industrie de la migration.
Plus américaine qu'espagnole, d'après vous, parce que les Philippines ont d'abord été sous colonisation espagnole, ensuite américaine. C'est davantage un produit de la... Pourquoi ?
C'est à ce moment-là vraiment qu'il y a une première phase d'institutionnalisation de la migration, des migrations aux Philippines. On observe une première massification, mais aussi une diversification des migrations. À l'époque, pendant la colonisation espagnole, on avait principalement des élites qui allaient se former en Espagne. Là, on a de nouveaux corps de métiers qui sont invités, forcés à migrer, des ouvriers agricoles, des infirmières, des marins notamment. Et donc, lors de cette première phase d'institutionnalisation de cette industrie de la migration, on observe la mise en place de centres de formation, de premières agences, de premières pratiques de recrutement, des agences de voyage qui vont commencer à organiser les déplacements des Philippins et des Philippines vers les États-Unis. Et c'est à ce moment-là aussi, ce qu'a bien documenté Catherine Choi, que les Philippines deviennent un empire du Caire, ce qu'elle appelle un empire du Caire, donc du prendre soin. Et on observe une première phase donc de féminisation des migrations dans l'archipel, du fait que de plus en plus de femmes sont recrutées comme infirmières pour aller servir aux États-Unis.
Ce qui leur permet d'ailleurs d'accéder à des études secondaires, d'intégrer des métiers dont elles étaient jusque-là absentes dans la santé et l'éducation, y compris dans des postes à haute responsabilité. Est-ce qu'à l'époque, c'est vu comme un atout? Parce que ça peut l'être.
Oui, alors il y a toujours cette ambivalence-là. Il y a une forme d'apprentissage, de qualification qui se joue à travers la migration, et aussi une forme de mobilité sociale, en tout cas actuellement, qui peut se jouer. Mais c'est un peu à ce moment-là, avec les attentes autour des infirmières philippines, que se construit aussi tout un imaginaire autour de ces infirmières, qu'elles sont, comme je le disais avant, très dociles, très douées pour prendre soin des patients et des patientes. Et donc, tout un ensemble de représentations se met en place autour de ces femmes, qu'elles seraient plus dévouées au travail, plus dociles. Et ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est comment ces imaginaires issus de la colonisation états-unienne va perdurer au-delà de cette période-là.
Et notamment dans les années 70, quand le nouveau code du travail de 1974 sous le régime de Ferdinand Marcos et en pleine loi martiale d'ailleurs est promulgué, en quoi est-ce en soi une promotion de la migration? Pourquoi Ferdinand Marcos va à ce moment-là commencer à institutionnaliser tout un système d'exportation de main-d'œuvre?
Alors ça, c'est en effet un tournant très fort de cette industrie, ces années 70, où qui doivent être lus à la lueur du contexte international. On a toute la Banque mondiale et le FMI qui mettent en place, qui obligent toute une série de pays à mettre en place des plans d'ajustement structurel, à reforger l'économie. Et les Philippines doivent mettre en place une industrialisation orientée vers l'exportation de biens, mais aussi l'exportation de main-d'œuvre. Et pour l'État philippin, ça va représenter différents atouts, notamment réduire le chômage dans l'archipel, ça va favoriser l'acquisition de qualifications à travers ces parcours migratoires, ça va permettre aussi, à travers les rémittances, de rééquilibrer la balance des paiements du pays, car comme on le disait au début de l'émission, ces rémittances, ces transferts d'argent représentent près de 10% du PIB. Et il faut savoir que pendant très longtemps, ces migrants et migrantes qui passent par l'industrie de la migration sont obligés de transférer une partie de leur salaire dans l'archipel. Ce pourcentage varie selon les métiers, mais on est entre 50 et 80% en général. Et donc, c'est des ressources considérables. Aujourd'hui, on est à près de 36 milliards de dollars par année qui sont transférés dans l'archipel. Donc, ces années 70 sont un tournant majeur, car il y a une phase d'institutionnalisation plus poussée avec une massification encore plus de l'exportation de main-d'œuvre.
Alors, c'est là que se mettent en place les institutions qui existent encore aujourd'hui pour organiser aux Philippines les migrations de travail, mais les autorités à l'époque ne sont pas encore en mesure de contrôler ou n'ont peut-être pas la volonté de contrôler ce qu'il advient ensuite de ces femmes. Autre tournant majeur dont vous parlez dans votre livre, c'est en 1995 quand est condamnée à mort Flor Contemplacion. C'est une femme d'origine philippine engagée comme travailleuse domestique, condamnée à mort pour le meurtre dans le cadre de son travail de la personne au service de qui elle était.
Merci à tous, merci aux évêques et prêtres qui sont ici, à nos amis et nos proches, et à tous les Philippins qui sont avec nous dans ce combat pour la justice. Nous devons continuer à demander la justice pour ma mère.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Nos compatriotes sont tués là-bas à Singapour. Nous devons couper les liens avec eux, boycotter leurs produits et bannir leurs citoyens. Et nous devons dire à tous les Philippins qui sont là-bas de rentrer à la maison.
Alors d'abord, Julien de Bonneville, que s'est-il passé exactement en quelques mots pour cette femme, Flor Contemplacion, qui est accusée d'avoir tué son employeuse? Est-ce qu'on est dans le cadre d'un schéma un peu style Sœur Papin qui tue la personne qui les employait, qui les maltraitait? Ou est-ce qu'on est dans le cadre d'une accusation infondée? Enfin, comment, déjà, que se passe-t-il à ce moment-là? Et quelles conséquences ça va avoir sur la politique que l'État philippin va mener ensuite pour mieux maîtriser cette immigration de travail, émigration de travail?
Autour de cette situation, il y a en effet beaucoup de d'émoi dans la société philippine. Cette femme est accusée d'avoir tué son employeur. Elle est condamnée à mort et pendue par la suite. Ce qui va beaucoup profondément choquer et marquer la société philippine. Et il y a une forte mobilisation de toute la société civile, des associations, des ONG, avec l'idée de il faut mieux protéger les ressortissantes philippins et philippines à l'étranger. C'est pas seulement un revenu économique, il faut aussi protéger ces personnes. Et donc c'est un tournant.
Mais pourquoi? Parce que elle est accusée à tort a priori, ou parce que elle a été très maltraitée jusqu'à présent dans la famille qui l'accueillait ou qui l'employait?
Alors il y a plusieurs voix, des fois dissonantes qui émergent, mais il y a toute la question des maltraitances qui est en effet mise en avant sur la scène la société civile autour des maltraitances qu'a pu subir Flor Contemplacion, mais plus largement des travailleuses domestiques philippines. Il faut savoir que ces maltraitances, ces violences que vivent ces femmes ont toujours existé hein, et continuent d'exister. Et du coup, à travers cette situation qui va cristalliser vraiment toutes ces critiques autour de ce système d'exportation de main-d'œuvre, vont ressortir à ce moment-là, notamment au fait que ce qui est observé, c'est que finalement l'État philippin a aucune emprise sur Singapour pour essayer d'éviter la peine de mort de cet employé. Et du coup, face à ça, l'État philippin développe une autre stratégie, celui de mieux former, protéger ses ressortissants et ressortissantes à travers la formation, mais aussi à travers un contrôle plus poussé des agences de recrutement pour éviter la traite des êtres humains. C'est vraiment 1995, un moment charnière, avec l'adoption de cette loi qui s'appelle le Migrant Workers and Overseas Filipino Act, dans lequel il y a toute une proposition de formation et cette idée justement que l'acquisition de compétences constitue un moyen pour améliorer donc la protection des migrants et des migrantes, notamment des migrantes les plus vulnérables.
Ce que vous considérez d'ailleurs comme une méthode relativement libérale, c'est-à-dire plutôt que de faire en sorte de mettre en place des garde-fous, des vraies protections, on ne peut pas faire autrement puisque ces Philippines travaillent dans des pays étrangers sur lesquels l'État philippin n'a aucune prise, que de les former, les conseiller, leur dire comment agir et comment se comporter.
Tout à fait, oui, le curseur se déplace vraiment sur la responsabilité individuelle. Ces migrantes doivent mieux se comporter, mieux travailler, mieux satisfaire leur employeur pour réduire les risques de maltraitance. C'est le discours en tout cas dominant qui se met en place. Et du coup, cela passe par des formations. Il y a quand même des antennes qui se mettent en place dans les pays de destination, en parallèle des ambassades, pour essayer d'aider au mieux les travailleuses domestiques. Mais la difficulté, dans le cas du travail domestique, c'est que cet emploi est exercé dans la sphère privée de l'employeur. Et bien souvent, ces femmes vivent chez leurs employeurs. Donc elles n'ont pas toujours la possibilité de sortir. Et donc, ce qui fait que l'accès à ces femmes est très difficile. Et du coup, ça justifie aussi tout la mise en place de ces recommandations autour de la formation pour l'apprentissage de compétences pour lutter contre la vulnérabilité.
Donc voilà, officiellement lutter contre cette vulnérabilité, même si les abus sont toujours présents, existent toujours, sont dénoncés notamment par Human Rights Watch, qui avait, il y a quelques années, interrogé cette jeune domestique philippine aux Émirats Arabes Unis.
Mon contrat stipulait que j'aurais dû avoir au moins 8 heures de repos par jour, accès à des soins médicaux et 15 jours de congé maladie. Je n'ai rien eu de tout cela. On travaillait non-stop, on travaillait même si on était malade. Mon employeur nous disait souvent « On peut te tuer quand on veut, parce que personne ne te voit ici et tu es loin de ta famille. On peut faire ce que l'on veut de toi. »
Alors depuis, Julien de Bonneville, même si vous avez travaillé spécifiquement sur les Philippines et pas tellement sur les pays d'accueil, et d'ailleurs on va recevoir dans quelques instants Lina El Soufi pour parler plus spécifiquement du Liban, mais néanmoins sur la façon dont sont traités les domestiques par les familles, tout ça dépend des législations des pays d'accueil. Est-ce qu'on sait dans quelle mesure, ces dernières années, l'État philippin a ou pas réussi à faire pression sur certains des États, comme les Émirats Arabes Unis, puisqu'on vient d'entendre un exemple émirati? Également le Koweït, il y avait eu une crise ouverte en 2018 quand on a retrouvé le cadavre d'une travailleuse philippine dans un congélateur, Johanna de Melfalis, 29 ans. Qu'est-ce qui a été mis en place par l'État philippin aujourd'hui pour faire pression sur ces États-là?
Il faut, pour comprendre un peu comment se négocient ces rapports bilatéraux entre les pays de destination et l'archipel philippin. Donc il y a toute une diplomatie du travail qui est appelée comme telle par le gouvernement pour essayer de négocier les conditions de travail des employés. Il faut savoir que c'est un contexte de concurrence internationale très fort avec d'autres pays, notamment d'Asie du Sud-Est, qui aussi envoient de la main-d'œuvre, notamment l'Indonésie. Donc il va s'agir de ne pas fermer des marchés pour l'État philippin, car d'autres pays pourraient en profiter. C'est ce qui est arrivé autour de 2013, justement, où l'Indonésie avait arrêté d'envoyer des travailleuses domestiques en Arabie Saoudite. Et du coup, il y avait un appel d'air très fort aux Philippines, où il fallait absolument envoyer un maximum de travailleuses vers l'Arabie Saoudite pour répondre à cette demande, ce que le gouvernement a fait. Mais du coup, dans les négociations, ce qui est bien souvent mis en avant, c'est les jours de congé et le salaire minimum. Et du coup, lorsque les contrats sont signés, il y a toute une sensibilisation de ces travailleuses avant qu'elles partent pour s'assurer qu'elles touchent bien le salaire qui est stipulé dans le contrat qu'elles ont signé avant de partir. Donc, par exemple, à Hong Kong, au moment de l'enquête, en tout cas, le salaire qui avait été négocié à travers les pressions de l'État philippin, mais aussi de la société civile à Hong Kong qui s'était mobilisée aussi pour ces travailleuses, c'était donc un salaire de $400 par mois et un jour de congé. Après, dans la pratique, certaines femmes, quand elles arrivent sur place, sont invitées, ou plutôt obligées, de signer un nouveau contrat avec d'autres conditions salariales. Et dès le moment où ce contrat est signé, il est très difficile pour l'État philippin de pouvoir changer ses normes salariales, par exemple.
Alors parfois ces normes sont améliorées sur pression, disiez-vous, à la fois de l'État philippin, de certaines organisations de la société civile dans ces états d'accueil, mais aussi de certaines de ces travailleuses philippines qui pour certaines se font entendre, s'organisent. En tout cas, vous insistez beaucoup dans votre livre, Julien de Bonneville, sur le fait qu'il ne faut pas survictimiser ces personnes et que les résistances ne sont jamais loin.
Tout à fait. Pour alors... Cette industrie de la migration s'inscrit dans un dispositif de pouvoir et crée des formes d'assujettissement. On voit qu'il y a une forte précarité autour de cet emploi. Mais il s'agit aussi de montrer que dans ces formes de domination peut se jouer des micro-résistances. Ces résistances peuvent se jouer au niveau collectif, à travers des engagements syndicaux ou politiques, si le pays de destination le permet. Elle peut se jouer aussi à travers des solidarités entre employés, comment ces femmes, dans leur quotidien aussi, vont développer des solidarités pour faire face à la difficulté du métier, mais aussi, des fois, négocier avec les employeurs collectivement. Mais aussi, à un niveau plus individuel, c'est ça aussi que j'ai tenté de documenter sur la base de leur récit, comment elles vont, dans les interactions sociales avec leurs employeurs, tenter développer différentes stratégies de résistance. L'idée, justement, à travers... Il y a tout un enjeu autour à travers du sourire, le sourire qui est souvent attendu par des employeurs. J'ai une employée souriante, motivée. Mmh. Et derrière ce sourire, comment, pour certaines femmes, ce sourire constitue une sorte de masque pour aussi mettre une distance à travers l'employeur, montrer que l'employeur n'a pas accès à ses émotions à travers ce sourire. Il y a tout aussi un enjeu d'ascendant moral autour de l'accès à l'intimité de l'employeur et ce que j'ai appelé un peu la bataille de l'intimité, qui a été aussi documentée par d'autres chercheuses. L'accès au quotidien et à l'intimité de l'employeur, est-ce que l'employeur met ses culottes sales à travers son appartement ou voir les incompétences de l'employeur pour gérer son ménage, et comment le fait de pouvoir voir ces incompétences et cette intimité de l'employeur peut donner un certain ascendant moral à ces femmes. C'est des micro-résistances qui ne permettent pas de changer plus largement les rapports de pouvoir qui se jouent entre employeurs et employés, mais montrer comment, montrer qu'elles peuvent résister, puis aussi dans les stratégies migratoires, comment elles vont aussi orienter leur parcours ou accéder à différents employeurs via des recommandations, via leur propre réseau.
Il se dit aussi que dans certains pays du Golfe, certains États du Golfe, certaines familles ont obligé certaines de ces domestiques philippines à se convertir à l'islam. Est-ce qu'on vous l'a raconté? Quelles informations vous avez là-dessus?
On ne m'a pas raconté qu'elles avaient été obligées. On m'a raconté plusieurs fois que les employeurs les avaient invitées, proposées. Elles avaient pu dire non pour les femmes catholiques. Pour les femmes musulmanes, il n'y avait bien évidemment pas cette proposition-là. Cette proposition, des fois, qui était monnayée aussi. Mais la plupart des femmes que j'ai interviewées m'avaient dit mais je me suis senti à l'aise de pouvoir dire... de refuser cette proposition de mon employeur.
Et certaines vous ont aussi dit que 5 pauses par jour, c'était pas de refus pour la prière.
Oui, il y avait des fois certaines femmes qui racontaient que dans des grandes familles employées, dans des grandes familles, il y avait plusieurs employés et certaines étaient musulmanes et du coup pouvaient prier 5 fois par jour avec leurs employeurs et du coup en tant que catholiques n'avaient pas cette opportunité-là et elles percevaient cette pratique de la prière comme des pauses dans la journée qu'elles jalousaient avec humour. Certaines. Mais voilà, l'engagement religieux aussi est un enjeu dans ces carrières migratoires de ces femmes.
Donc des résistances collectives ou individuelles, matérielles ou symboliques, frontales ou indirectes que vous racontez dans vos travaux. C'est le cas au Liban, par exemple, de nombreuses sociétés, de nombreuses organisations de la société civile se battent aujourd'hui pour faire réformer la kafala, cette législation, ce système de parrainage qui ne garantit aucun droit du travail aux domestiques philippines. C'est en train d'avancer, mais en fait l'État libanais fait tout pour l'instant pour que ce système perdure. On en parle avec Lina El Soufi. Juste après ce disque, un classique des années 70, ça parle du retour d'un Philippin à Manille. Manila, I keep coming back to Manila. Simply ain't no place like Manila. Manila, I'm coming home. I walk the streets of San Francisco. Sydney, somehow I feel like I don't belong. Kina hana, hanap kita Manila. Ang ingay mong kaisarap sa tenga. Mga jeepney mong nagliliparan. Mga I'm Coming Home chantait ce groupe Hot Dog dans les années 70 en parlant du retour d'un Philippin à Manille après avoir travaillé dans le monde entier et notamment sur les mers. Vous écoutez Culture Monde, le troisième épisode de notre géopolitique des travailleurs. Aujourd'hui, les Philippines ou la fabrique de la domestique modèle, comme disent les agences qui recrutent ces domestiques aux Philippines pour les envoyer à l'étranger. Domestique modèle, un discours qui arrange bien l'État philippin et qui arrange bien aussi les pays d'accueil quand ils se défaussent sur ces domestiques pour pallier les déficiences des services publics, c'est le cas du Liban.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
S'il n'y avait pas le système de la kafala, je pense que les gens nous traiteraient équitablement. Car les Libanais vont travailler pour gagner de l'argent, changer leur vie et soutenir leur famille. Nous sommes venus d'Éthiopie pour faire la même chose. Nous sommes égaux, il n'y a pas de différence. C'est un rêve d'en finir avec la kafala, mais je ne sais pas comment. Parce que c'est un système, et c'est difficile d'en finir avec les systèmes.
Elle s'appelle Tigereda Brianou, c'est une ancienne employée de maison au Liban. Elle est aujourd'hui active dans la défense des droits de ces travailleuses étrangères soumises jusqu'à maintenant à la législation de la kafala. C'est donc un système de parrainage qui ne garantit aucun droit du travail et qui lie le titre de séjour de l'employé à ses employeurs puisque ceux-ci conservent son passeport. Une ancienne ministre du Travail libanaise proposait en 2020 une loi pour réformer la kafala, mais ni les agences de recrutement, ni les employeurs, ni l'État libanais n'ont manifestement intérêt à cette réforme. Bonjour Lina El Soufi.
Bonjour, merci.
Merci beaucoup d'être avec nous et bienvenue. Vous êtes doctorante en sociologie au CRESPA, le Centre de Recherche Sociologique et Politique de Paris, du CNRS et Paris 8, affilié à l'Institut Convergence Migration. Vous êtes également. Vous travaillez sur la relation des Libanais et des Libanaises à leurs employés domestiques migrantes. Donc vous vous intéressez au travail des employés de maison du côté des employeurs et des agences. Est-ce qu'il a déjà été question au Liban de supprimer la kafala ou est-ce qu'il ne s'est jamais agi que de la réformer?
Alors, parler de supprimer la kafala au Liban, c'est un espoir des associations qui est encore bien trop lointain. Aujourd'hui, déjà, ce qu'il faut savoir, et il faudrait peut-être commencer par là, c'est que le Code du travail libanais, tel qu'il a été introduit en 1946, il prévoit dans ses dispositions préliminaires, à l'article 7, l'exclusion des ouvriers agricoles et des travailleuses domestiques dans les domiciles des particuliers. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Cette exclusion, elle a des conséquences concrètes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contrat de travail, qu'il n'y a pas de réglementation du temps de travail, qu'il n'y a pas de réglementation des congés, etc. Une interdiction de se constituer en syndicat, etc. Également. Donc déjà, il faut commencer par là. Donc ces travailleuses domestiques ne sont pas protégées par le droit du travail au Liban.
Voilà pour le contexte. Et la ministre du Travail, quand en 2020, elle dit « je vais réformer la kafala », bon, elle n'a jamais réussi à le faire, mais quelle était son intention?
Alors, effectivement, en fait, il ne s'agissait même pas, à ce moment-là, de réformer la kafala. Ce que la ministre du Travail en 2020, Lamia Yamin, avait proposé, c'était la mise en place d'un contrat unifié ou unique qui, dans ses dispositions, prévoyait notamment une réglementation des heures de travail, des jours de congé, de la liberté d'aller et venir des employés domestiques qui, il faut le rappeler, au Liban sont exclusivement à demeure, donc travaillent et vivent au domicile de leurs employeurs. Le plus important qui était prévu dans ce contrat unique ou unifié, c'était le fait que les employés domestiques pouvaient quitter de manière unilatérale leur emploi sans l'autorisation de leur employeur. Et pourquoi c'est important ? C'est parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, une employée domestique, à cause de ce système de la kafala, ne peut pas quitter son emploi sans l'accord de son employeur.
Et alors, cette réforme prévoyait donc cette possibilité, alors, moyennant un préavis d'un mois. Il y avait aussi la question de vérifier toujours que la chambre, enfin la chambre devait être correctement éclairée et ventilée, équipée d'une porte qu'on pouvait fermer de l'intérieur, ce qui en dit long sur les plaintes qui ont dû remonter. Alors, qui a bloqué la réforme? Puisque s'il n'y a pas de syndicat à proprement parler de ces travailleuses étrangères, enfin il n'y en a pas du tout, ces travailleuses étrangères au Liban, il n'y a pas non plus d'association d'employeurs. Alors qui a fait en sorte que rien ne change?
Et bien justement, c'est une question très intéressante. Donc en septembre 2020, au moment de la démission du gouvernement, la ministre Lamia Yamine présente le contrat qui allait être mis en place et aussitôt, le syndicat des propriétaires d'agences de recrutement au Liban a mené une action en justice et le Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction administrative au Liban, a suspendu ce contrat. Donc aujourd'hui, la mise en place de ce contrat est toujours suspendue par le Conseil d'État. Il n'a ni été modifié, ni été annulé. Il est toujours en suspens.
Mais en quoi ça les dérangeait, ces agences de recrutement, que les employés soient mieux payés avec un minimum de vacances garanties? C'est quoi? C'est que ça fait trop de bazar pour trouver des remplaçantes? Enfin, quels étaient les arguments avancés par ces agences pour dire qu'on ne peut pas réformer la kafala?
Alors, il y a eu plusieurs arguments qui ont été avancés, notamment le fait que ce sont des dispositions qui sont irréalistes, irréalisables. Il y a eu aussi l'argument de dire que ces syndicats, le syndicat des propriétaires d'agences n'ont pas été consultés pour établir ce contrat. Mais ce qui est sous-jacent, c'est que donner plus de droits aux travailleuses, c'est imposer plus de contraintes aux employeurs. Et les employeurs, ce sont les clients des agences.
Et ces agences, ce sont les agences de recrutement libanaises qui ont donc un rôle prépondérant dans la carrière d'une employée étrangère au Liban, et ce, dès le pays de départ. C'est-à-dire, est-ce qu'elles travaillent en lien avec les agences aux Philippines? Est-ce que la discussion est constante entre elles? Comment ça se passe?
Alors, ça dépend de la taille de ces agences et de leur influence localement au Liban. Mais la plupart des agences, effectivement, des agences au Liban, sont en lien avec des agences des pays émetteurs, comme le disait Julien de Bonneville tout à l'heure. Donc, elles sont en contact avec des agences aux Philippines, en Éthiopie, donc pour les deux pays majoritairement émetteurs de main-d'œuvre vers le Liban, mais c'est le cas aussi pour le Népal, le Sri Lanka, et puis maintenant aussi le Togo, le Ghana, etc. Et donc ces agences vont envoyer aux agences des pays émetteurs les caractéristiques des travailleuses domestiques souhaitées par les employeurs pour pouvoir constituer des catalogues, parce que moi j'ai pu mener des observations au sein des agences. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les employeurs, les futurs employeurs se présentent aux agences de recrutement au Liban et émettent des souhaits sur les caractéristiques des travailleuses domestiques. Et la plupart du temps, ce sont des caractéristiques physiques ou sociales, familiales, religieuses, et très peu basées sur les compétences des travailleuses domestiques.
Sauf à ce que ces agences de recrutement considèrent des caractéristiques physiques comme des compétences, comme nous disait Julien de Bonneville, c'est la façon dont ils ont tourné les choses, et notamment sur les caractéristiques physiques, par exemple. Qu'est-ce que les familles libanaises en général demandent?
Donc c'est un système qui est tout à fait racialisés hein, dans la main-d'œuvre. Par exemple, il y a ces imaginaires racistes qui voudraient qu'une femme noire est plus robuste, donc elle serait plus à même à effectuer des tâches domestiques de ménage, de nettoyage, là où justement, comme le disait Julien de Bonneville tout à l'heure, une femme philippine est plus calme, plus douce, mieux éduquée et sera plus à même de s'occuper des enfants, par exemple.
Alors on parle au Liban de 250 000 travailleuses domestiques, soit 4% de la population, dans un pays où 80% de la population vit avec moins de 6 dollars par jour. Ces statistiques datent de l'été dernier, alors que le pays est allé d'épreuve en épreuve. La crise économique qui a vu la livre perdre 90% de sa valeur, la pandémie de Covid, la double explosion au port de Beyrouth en août 2020. Comment expliquer un tel recours encore aujourd'hui aux travailleurs domestiques étrangers, aussi mal rémunérés soient-ils ?
Alors aujourd'hui, justement, il y a une réorganisation de la domesticité au Liban avec justement ces crises économiques, politiques. Il y a un déclassement de la majorité de la population libanaise et seules les familles les plus aisées aujourd'hui sont en capacité d'employer encore des travailleuses domestiques étrangères, les plus aisées ou celles qui reçoivent de l'aide de leurs proches à l'étranger. Et on a aussi justement une réorganisation dans les nationalités des travailleuses domestiques qui viennent travailler au Liban. Parce que comme on le disait tout à l'heure justement, par exemple les travailleuses philippines, on a observé une baisse notable de leur recrutement parce que leurs frais de recrutement et leurs salaires sont plus élevés. Pour les raisons qu'on invoquait tout à l'heure, ou à l'inverse, une augmentation de l'arrivée de travailleuses d'origine d'Afrique de l'Ouest, par exemple, dont les salaires sont encore très très bas.
Donc, ce moindre recours aux travailleurs domestiques aujourd'hui de l'étranger, alors il y a eu une réorganisation entre guillemets des nationalités, celles auxquelles on a recours, qui sont plus ou moins chères, etc. Mais est-ce que ça a aussi réorganisé la société libanaise, soit en incitant les Libanais à se battre pour obtenir des services publics, soit de façon beaucoup plus intime en modifiant leur rythme de vie, le taux d'emploi des femmes, etc. Est-ce que là-dessus on commence à avoir une idée de la façon dont les choses sont en train de changer presque structurellement au Liban ?
Tout à fait, c'est quelque chose de très intéressant en fait, c'est parce que tout ce système de main-d'œuvre pas chère qu'on peut mettre à disposition des Libanais et des Libanaises pour le travail domestique, c'est aussi la preuve de la défaillance de l'État en termes de services publics, en termes de care, donc prendre soin, que ce soit de la petite enfance, des personnes âgées, des personnes handicapées, malades, etc. Donc l'État a tout intérêt aussi à pouvoir maintenir une forme d'accessibilité à cette main-d'œuvre pour que les Libanais puissent avoir accès à ce service de care.
C'est une façon d'acheter la paix sociale, d'après
Exactement.
Vous ?
Exactement. Moi, je pense qu'on pourrait aller jusqu'à dire que dans un pays justement corrompu, où les individus ont un pouvoir d'agir à la fois politique et financier très moindre, l'État leur permet de reprendre le contrôle au sein de leur foyer, d'être des patrons chez eux. Et ça, de manière assez importante. Et donc, justement, ces crises que traverse le pays ont aussi poussé beaucoup de femmes à quitter leurs emplois pour reprendre les foyers, faute de moyens pour employer une travailleuse domestique étrangère. Et on observe aussi de plus en plus de familles qui vont faire appel à des femmes de ménage payées à l'heure, elles, pour
à
le
l'heure.
Coup.
Voilà, pas voilà. À la journée, pas au forfait mensuel, mais à l'heure, voilà. De temps en temps. Et notamment des femmes libanaises ou syriennes.
Voilà, ce sera plutôt ces profils-là.
Merci beaucoup Lina El Soufi, doctorante en sociologie au CRESPA, le Centre de Recherche Sociologique et Politique de Paris, du CNRS. Et vous êtes aussi à Paris 8, affiliée à l'Institut Convergence Migration. Peut-être un tout petit mot, Julien de Bonneville, pour réagir à ce que disait Lina El Soufi sur cette baisse de recrutement d'employés philippines et aussi la concurrence des personnes venues d'Afrique de l'Ouest ou de l'Est, je ne sais plus, de l'Ouest plutôt, payées moins cher. Comment aujourd'hui réagissent les agences aux Philippines?
Elles ont justement ce rôle d'aller à la recherche de nouveaux marchés. Et au moment de l'enquête, justement, il n'y avait plus d'accords bilatéraux avec le Liban. Du coup, il n'y avait pas de déploiement, mais toujours ce projet d'aller rencontrer de nouveaux partenaires dans d'autres pays de destination pour déployer de la main-d'œuvre le plus rapidement possible.
Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec
Merci.
Nous. Julien de Bonneville, sociologue, chercheur à l'Observatoire des précarités de la Haute École du Travail Social et de Santé à Lausanne. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'industrie mondialisée du travail domestique aux Philippines, paru aux éditions de l'ENS. Et merci à nos confrères de la RTS, la radio-télé suisse, de vous avoir accueilli, en particulier Cyril Delemaire pour les moyens techniques. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture. La revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et un fil rouge ce matin, Catherine, l'extraction. Vous nous emmenez tout d'abord en Amérique du Sud, dans le triangle du lithium.
L'Argentine, la Bolivie et le Chili attisent les convoitises, car ces trois pays détiennent les plus grandes réserves mondiales de lithium, indiquent les journaux El Tiempo, El País América et la radio Voz de América. Mais des intérêts divergents s'affrontent. Les industriels et des pays comme les États-Unis et la Chine, pour qui le lithium est crucial dans la transition verte. Ce métal est utilisé dans les batteries des voitures électriques, des portables, mais aussi pour les panneaux solaires ou encore l'énergie éolienne. Et le triangle sud-américain du lithium, pour ses puissances, est une pièce cruciale du puzzle pour sauver l'environnement, souligne Voz de América, la radio internationale des États-Unis en version hispanophone. Mais cette pièce du puzzle est aussi un casse-tête pour les peuples autochtones d'Argentine, de Bolivie et du Chili qui défendent, eux, leurs terres ancestrales et un accès à l'eau. Car le lithium, surnommé l'or blanc, se trouve dans des salars, des plaines de sel. Alors si l'eau des lagunes n'est pas potable forcément, note Voz de América, elle est liée aux sources d'eau douce environnantes, aux rares précipitations et aux ruisseaux des montagnes voisines, essentiels à la survie donc de milliers de communautés indigènes. Dans le nord-ouest de l'Argentine, Rosa, une militante de l'environnement, décrit au Guardian le calvaire qu'elle a vécu en pleine nuit. Des policiers sont entrés chez elle à 2h du matin, sans mandat. Ils l'ont bâillonnée, lui ont couvert les yeux et lié les mains avec un câble avant de l'agresser sexuellement. Et ce, après avoir manifesté contre deux réformes, l'une limitant le droit de manifester et l'autre modifiant le droit des terres autochtones, dans le but non avoué, précise le Guardian, de continuer à exploiter le lithium. Tensions environnementales et sociales, ajoute la BBC, qui a interrogé de son côté Ai Qing, une employée chinoise qui travaille pour une mine de lithium dans le nord de l'Argentine. Elle a eu peur une nuit aussi en étant réveillée par des Argentins qui manifestaient devant le site, notamment contre le recours à des employés chinois.
Et la justice doit parfois s'en mêler.
Comme le montre dans le nord de l'Argentine, ce jugement sans précédent d'un point de vue environnemental relayé notamment par les journaux Página 12 et Tiempo Argentino.
La Corte de Justicia de Catamarca ordonó ahora al gobierno de la provincia paralizar la extracción de litio.
Le tribunal de Catamarca a ordonné au gouvernement de mettre fin à l'exploitation du lithium dans le Salar del Hombre Muerto, explique la chaîne télévisée argentine Canal 26. Les autorités ont été invitées à ne pas accorder de nouveaux permis tant qu'une étude d'impact sur l'environnement n'aura pas été réalisée. C'est à partir de cela que l'on saura si l'activité minière peut continuer ou non. Canal 26 Il se rappelle que cette action judiciaire avait été intentée en 2021 par un cacique, le chef autochtone Roman Elias Gutian, qui représente la communauté Atacameños del Altiplano et qui défendait le droit à un environnement sain. À cause de l'activité minière, la rivière Trapiche s'est asséchée, explique El Tiempo Argentino et El País América. Une entreprise avait notamment créé un barrage pour rediriger de l'eau vers son usine en utilisant 650 000 mètres cubes d'eau par heure. Impossible désormais de faire paître des moutons, des chèvres et des lamas, dénonce le cacique Roman Elias Gutian dans les colonnes d'El País América. Aucune consultation n'avait par ailleurs été menée au préalable auprès des communautés autochtones alors que la loi l'exige, rappelle El Tiempo Argentino. Le quotidien s'inquiète par ailleurs du regard que pose sur le lithium argentin Elon Musk, idolâtré, dit-il, par le président Javier Milei. Le lithium, clé de la transition énergétique, mais aussi de la voracité étrangère, selon El Tiempo Argentino.
Et pour finir, une toute autre forme d'extraction de données, cette fois avec le déchiffrement de papyrus, qui dévoile les dernières heures de la vie de Platon.
Et les douces notes d'une flûte jouée par une femme originaire de Thrace auraient dû alléger la fin de sa vie. Mais le célèbre philosophe grec ne les aimait pas du tout, bien que fiévreux et à l'article de la mort. Il était assez lucide, raconte l'agence de presse italienne ANSA, pour critiquer la musicienne pour son mauvais sens du rythme. Cette scène inédite d'il y a plus de 2000 ans, c'est l'un des passages déchiffrés dans les papyrus d'Herculanum qui ont survécu à l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ, précise le quotidien italien La Repubblica. Et ce grand pas en avant a été réalisé en combinant deux techniques innovantes pour revenir au texte caché sous les différentes couches et pliures. Ces techniques, ce sont la tomographie par cohérence optique et l'imagerie infrarouge hyperspectrale. Cela fait partie d'un projet Greek Schools financé par le Conseil européen de la recherche à hauteur de 2,5 millions d'euros. Il s'achèvera en 2026 avec l'aide également de l'Université de Pise, l'Institut des sciences du patrimoine culturel et l'Institut l'Institut de linguistique informatique. Les mots décodés suggèrent également que Platon a été enterré dans le jardin qui lui était réservé à l'Académie d'Athènes, indique le Guardian. L'Académie est la première université du monde qu'il a fondée. Le travail conjoint des papyrologues, philologues, historiens et physiciens se poursuit, ouvrant de nouvelles perspectives de recherche, explique La Repubblica. Mais ces résultats ont été annoncés dans la presse traditionnelle et pas scientifique. C'est ce qu'a noté ma camarade des matins, Alexandra Delbo, qui attend une publication plus sérieuse encore sur la méthode et les résultats annoncés.
Merci beaucoup, Catherine Dutu.